MESMA, dans ce pays difficile, désertique, extrêmement étendu, dont le climat est l'un des plus rudes du monde, quand elle fait une sortie, il faut bien qu'elle fasse des sorties, elle ne va pas rester dans ses garages. La MINUSMA est là pour surveiller le pays, pour se mettre en interposition si des combats reprenaient. Mais la MINUSMA ne peut pas sortir sans une escorte Touareg. Parce qu'elle ne connaît pas le pays et que les seuls qui peuvent répondre aux djihadistes, c'est les Touareg. Ou à l'armée de Bamako, d'ailleurs. Donc, on arrive à des situations incroyables. Où celui qui vient pour faire la paix a besoin de l'un des combattants pour, tout simplement pour sortir de son cantonnement. Alors, c'est dans des conditions encore plus confuses et juridiquement discutables que le Conseil de sécurité a couvert en 2003, a posteriori, l'intervention déclenchée par les gouvernements des États-Unis et du Royaume-Uni en Irak pour faire tomber Saddam Hussein sans résolution préalable du Conseil de sécurité. Donc il y avait eu la première guerre d'Irak en 90-91, déjà juridiquement très douteuse, avec en plus 12 ans d'embargo entre les deux. Et en 2003, vous vous en souvenez, c'est parce que nous avons vu notre Premier ministre, Dominique de Villepin, faire un très beau discours au Conseil de sécurité pour dire que nous, la France, on n'irait pas. Et il avait raison, d'ailleurs. Sauf qu'il aurait peut-être dû proposer autre chose après, à mes yeux. En tout cas, comme il était clair qu'il n'y aurait pas de résolution votée par l'ensemble des membres du Conseil de sécurité, les États-Unis y sont allés tout seuls, comme d'habitude, avec le Royaume-Uni quand même. Et ils y sont allés, cette fois-ci, pour faire tomber Saddam Hussein. C'est-à-dire, ce que George Bush père n'avait pas fini comme travail, George W. Bush fils a décidé de le terminer. Car c'est vrai que dans la première guerre d'Irak, volontairement, l'opération dite internationale, mais essentiellement américaine, s'était arrêtée avant d'entrer à Bagdad. On n'avait pas décidé de faire tomber le régime de Saddam Hussein. En 2003, on y est décidé, et le Conseil de sécurité va légaliser a posteriori. Alors, c'est juridiquement quand même très douteux, parce que ça a été une manière de masquer que l'intervention anglo-américaine, au moment où elle a été faite, était une agression, puisqu'il n'y avait pas de mandat international. Ce n'était pas une opération de recours à la force autorisée. Et là, il n'y avait pas de motif de légitime défense. Or, non seulement elle n'a pas été condamnée, mais le Conseil a essayé, les Nations Unies ont essayé de revenir dans le jeu en surajoutant à l'occupation anglo-américaine qui résultait de cette intervention un régime d'administration internationale en même temps qu'on a autorisé le déploiement d'une force multinationale sous commandement unifié. On a reconnu de facto, enfin l'ONU a reconnu le rôle des États-Unis comme puissance occupante. Donc dans les deux cas, l'Irak et l'Afghanistan, les interventions, d'abord unilatérales, ont été couvertes plus ou moins clairement par l'ONU et elles ont engendré elles-mêmes une terrible violence. Ce ne sont pas des opérations de maintien de la paix. Il y a eu plus de 1000 soldats américains tombés en Afghanistan et près de 4500 en Irak, sans compter évidemment les soldats d'autres contingents, parce qu'il y a quand même des contingents internationaux. Les victimes afghanes ou irakiennes sont très difficiles à dénombrer. On a beaucoup de mal à avoir des chiffres, ils sont très contestés, mais les chiffres les plus vraisemblables pour l'Irak, c'est quand même de 600 000 morts. Pour l'Afghanistan, on n'arrive pas à avoir de chiffres. Le sujet est très litigieux parce que les autorités locales refusent de les donner parce qu'elles disent qu'il y a énormément de victimes collatérales occasionnées par les bombardements des États-Unis. Et dans les deux cas, il y a eu finalement décision de retrait des troupes qui avaient été ainsi engagées. Mais la décision a été prise par les pays qui les avaient menées. Vous avez vu Obama à la télévision dire « oui, nous allons nous retirer ». Pas du tout le Conseil de sécurité. Ce qui montre bien que l'intervention du Conseil de sécurité là-dedans n'avait été qu'un habillage et pas du tout une véritable opération collective. Alors, je ne peux pas clore ce paragraphe relatif à tous ces artifices qui ont dénaturé le système de maintien de la paix sans évoquer une autre notion qu'on nomme la responsabilité de protéger et sans parler de l'utilisation qui en a été faite en Libye. On avait cru, en 2009, qu'on était en train d'inventer un nouveau concept, comme on dit. Et ça aurait pu être une innovation assez considérable sur le plan des principes. L'Assemblée générale des Nations unies avait pris une grande résolution proclamant la responsabilité de protéger les populations civiles. Et cette responsabilité incombait aux États. L'État du lieu d'abord, celui dont des populations qui lui appartiennent sont menacées, mais les autres États collectivement. Alors, il y a eu des commentaires au moment où c'est sorti en 2009, il y a eu beaucoup de commentateurs qui disaient « bon, c'est une déclaration d'intention, une de plus, et ça ne donnera rien ». Et puis, on a quand même été surpris en 2011, quand le Conseil de sécurité, devant ce qui se passait en Libye, car après le début de ce qu'on a appelé les printemps arabes, qui avait commencé en Tunisie fin 2010, la Libye, voisine de la Tunisie, a été prise elle aussi d'un mouvement démocratique, revendicatif, de changement politique. Et là, le désordre s'est installé très vite et le Conseil de sécurité s'est saisi de cette notion, la responsabilité de protéger, pour inviter les États à prendre toutes mesures nécessaires, ce qui couvrait donc éventuellement des mesures militaires, pour protéger les populations et les zones civiles menacées d'attaque en Jamahiria arabe libyenne, tout en excluant le déploiement d'une force d'occupation étrangère au sol, sous quelque forme que ce soit. Donc, il était clair qu'on donnait l'autorisation que voulait tant notre philosophe Bernard-Henri Lévy, qui a été le promoteur de cette affaire et le conseiller de Sarkozy là-dedans. Ils étaient convaincus tous les deux, je ne sais pas lequel a convaincu l'autre, mais je crois que c'est Bernard-Henri Lévy qui a convaincu Sarkozy. Ils étaient convaincus que, voilà, on avait une mission nouvelle, la France devait y aller, et qu'en bombardant les belligérants, du haut de nos avions, sans prendre beaucoup de risques nous-mêmes, nous allions protéger les civils. Alors, cette résolution, d'ailleurs, je vous le signale au passage, n'a été acquise, comme beaucoup d'autres, qu'avec l'abstention de deux membres permanents, la Russie et la Chine, qui d'ailleurs, après, ne se sont pas cachés d'avoir beaucoup regretté de s'être abstenus et n'avoir pas mis leur veto quand ils ont vu comment ça avait tourné. Puis il y avait eu aussi, dans les membres non permanents, l'abstention de poids lourds, quand même l'Inde, l'Allemagne, le Brésil. Donc c'est une résolution qui a été votée ric-rac. Alors elle a ouvert la voie à cette action militaire, très délicate, qui a d'abord été engagée par les États volontaires, c'est-à-dire la France et la Grande-Bretagne, parce que nous, on roulait des mécaniques, mais techniquement, militairement, on ne pouvait pas y aller tout seul. Parce que c'est bien beau de bombarder, mais il faut des avions ravitailleurs, il faut une logistique. La France était un peu juste. Donc on a convaincu le Royaume-Uni d'aller avec nous, et on est allé à deux, et ensuite on a été relayé très vite par l'OTAN. Alors sur le plan concret, nous savons ce qu'il en est résulté. Il y a eu la chute de Kadhafi dans les conditions que vous savez, qui n'étaient pas glorieuses. Mais il y a eu surtout la déstructuration totale de la Libye et la mise à disposition de qui voulait des armes contenues dans les arsenaux de Kadhafi. Et les arsenaux de Kadhafi, c'était pas mal du point de vue militaire. Il avait acheté au monde entier des armes très nombreuses et très sophistiquées. Et les djihadistes du Sahel, dont je parlais tout à l'heure, qui œuvrent au Nord-Mali, et ceux de toute l'Afrique d'ailleurs, sont désormais équipés comme ils n'auraient jamais espéré l'être. Alors, moi je me souviens d'avoir été très mal à l'aise avec cette affaire de responsabilité de protéger, parce que on ne peut qu'approuver les Nations Unies si elles se préoccupent de la situation des civils, quand ils sont victimes d'exactions, y compris de leur propre État. Mais il était quand même difficile de voir dans ce substitut tardif un remède à la